CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour, bonjour et merci d'être là aujourd'hui dans ce MAG du pays Midi-Quercy où les offices de tourisme prennent le micro. Ce sera pour la deuxième partie de cette édition en Quercy-Caussadé. Mais avant ça, parlons escargot et lisciculture dans la chronique Les Circuits Courts. Bonjour, animée par Marie Brandy. Elle est chargée de mission alimentation et circuits courts au sein du PETR Midi-Quercy et est allée à Genébrière rencontrer François Lagarde du clos Jouan Lagarde. C'est maintenant.
Les circuits courts, bonjour. Aujourd'hui, je vous amène à Genébrière, au clos Jouan Lagarde. Donc, c'est un élevage d'escargots. Comment ça s'appelle déjà, les élevages d'escargots ?
Ça s'appelle l'héliciculture. Et moi, du fait, je suis héliciculteur.
Il y a combien d'escargots ?
Actuellement, je mets en parc à peu près 200 000 escargots. Mais je ne vis pas, je ne prétends pas vivre de l'escargot. Hein. Je suis agriculteur, je suis éleveur de blondes d'Aquitaine. C'est ma principale activité. Bon, l'escargot, c'est un truc nouveau qu'on a installé parce qu'on avait peut-être un peu de lassitude avec les vaches, avec ce qu'on faisait. Moi, j'aime bien changer, amener des trucs nouveaux et avoir des nouveaux challenges. Et que je réussis pas forcément. Mais bon, l'escargot, en tout cas, ça occupe une personne à plein temps, ma femme, pour la cuisine. Et il y a 200 000 escargots en parc, mais on en ramasse à peu près 100 000, parce qu'il y a quand même beaucoup de pertes. Surtout ces dernières années avec la canicule. Donc vous voyez, un parc de 100 000 escargots avec environ 300 escargots au mètre carré, c'est à peu près la densité. Il faut, avec 400 mètres carrés, vous avez à peu près un parc. Donc moi j'ai trois parcs, et trois parcs parce qu'après je mets en jachère une partie des parcs. Donc je lâche à peu près 200 000 escargots. On a un autre handicap dans la région, c'est que si vous voulez, l'escargot c'est très culturel. Donc dans des régions en marge du Petit Gris, tout ce qui est au bord de la mer, les pays de Loire, enfin la Charente, le Bordelais, ce n'est que du Petit Gris, y compris dans les Catalans, le bord de la Méditerranée, là c'est du Petit Gris, et dans tout l'est de la France, et le nord de la France, c'est le Gros Gris, autrefois c'était le Bourgogne. Bon, en élevage, ça a été remplacé par le Gros Gris, qui est beaucoup plus tendre et beaucoup plus goûteux. Et donc ça m'oblige ici, puisque je suis ni d'une région ni d'une autre, et que la population est toute mélangée, et qu'il n'y a pas vraiment une culture de consommation d'escargots, ça m'oblige à avoir les deux races. Donc forcément, j'ai un demi-parc pour les petits gris, et après un parc et demi pour les gros gris.
En fait, ils ne se mélangent pas, les escargots, c'est ça? Ou c'est vous qui les mettez chacun d'un côté pour pas qu'il y ait de croisement
Mais ces deux races cousines, mais qui sont pas pareilles. On utilise le petit gris pour la cuisine en sauce, les escargots à la catalane, à la bordelaise, en salade, enfin, etc. C'est des escargots plus petits, c'est les escargots qui sont autochtones, quoi, communs de nos jardins, hein, on le connaît tous. Et pour l'élevage, et les escargots qui vont finir en escargot farci à la sauce bourguignonne traditionnelle, là, c'est une race qu'on est allé chercher en Afrique du Nord. Et c'est le cousin exact du petit gris, mais en plus gros. Voilà, il est le double plus gros. Et il s'élève facilement, alors que le Bourgogne, ne s'élève pas, ou très difficilement. Et puis aussi, économiquement, il n'est pas du tout rentable parce qu'il met 2-3 ans à pousser. Alors qu'en élevage, on arrive à faire pousser un escargot en 120 jours, en 150 jours. Et aussi gustativement, il est quand même beaucoup plus tendre. Voilà pourquoi on fait le gros gris. Tous les éleveurs de France font du gros gris aujourd'hui.
Parce qu'en fait, il y a des saisons pour les escargots. Alors, ça pousse déjà, je ne savais pas que ça poussait, les escargots.
Disons, l'escargot, ça. C'est pas. un hasard si c'est le symbole de la décroissance, parce que l'hiver, ça ne fait rien, et l'été, ça ne fait pas grand-chose non plus, parce que ça estive, l'été, ça estive, et l'hiver, ça hiberne. Vous voyez ?
Donc, estivé,
un petit peu à l'estivé, c'est-à-dire qu'il s'endort l'été, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a du vent, il préfère dormir. Enfin, ça, et parce qu'il pleut pas. S'il pleut pas pendant 6 mois, l'escargot ne va pas bouger de sa coquille, quoi.
Donc là, ils doivent être à fond, en fait, en ce moment, non ?
Et là, ils sont en hibernation. À partir du mois de novembre, ils commencent à hiberner. Donc la saison la plus propice pour l'escargot ici, c'est de mars à juin. Après arrivent les canicules, et après ça va aller décroissant en fonction du jour qui diminue. Donc après, il ne pousse pas tellement au mois d'août, il fait trop chaud, septembre, idem, et après une petite reprise à l'automne, mais ce n'est pas là que l'escargot pousse. En fait, vraiment, c'est 2 mois de mars, ici, au mois du juin. Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu de mal, parce qu'on a appris, nous, plutôt dans l'est de la France. Évidemment, il n'y a que 2 écoles en France pour apprendre l'escargot. Donc moi, j'ai appris dans le Doubs, et ma femme à Chambéry. Et du coup, tout ce qu'on nous a dit, c'est un peu à remis en question ici, parce que ça ne marche pas comme ça ici.
Mais du coup, vous faites comment l'été ? Alors, vous les arrosez ou vous les mettez au frais ? Comment vous faites ?
Ouais, c'est-à-dire que, bon, pour qu'ils poussent et qu'ils sortent chaque soir, donc de mars à juin, juillet, on est obligé d'arroser un petit peu, de mettre une rosée chaque soir, ça les fait sortir. Là, ils vont consommer des plantes qu'on a semées dans le parc. Alors, à savoir, moi, je mets du trèfle, de la luzerne. Et l'escargot ne mange pas de graminées. Il lui faut des protéines. Donc, c'est plutôt des plantes avec des protéines. Ou alors, dans d'autres endroits, on sème beaucoup de crucifères. Donc, l'escargot, les crucifères, bon, c'est les choux, les radis. Toutes ces plantes.
C'est ce qui mange dans mon jardin, en fait, c'est ça.
Voilà. Le colza, tous ces trucs-là. L'escargot, vous ne le verrez jamais manger, ou très rarement, il faut qu'il ait très faim pour manger de l'herbe, quoi, en fait. Non, c'est toujours des légumineuses. Donc, alors, une base de semis de légumineuses pour faire pas le paillage, mais enfin l'environnement propice, quoi. Beaucoup, beaucoup d'ombre. Et alors après, c'est additionné avec de la farine de céréales, alors complet, pareil, avec des protéines et surtout du calcium pour faire pousser la coquille. On a besoin d'avoir une coquille solide, donc ça, c'est aussi important que la chair. Si la coquille n'est pas fini, on appelle ça la coquille bordée, si elle n'est pas dure, elle n'est pas cuisinable. Donc c'est à un moment donné, ça arrive à maturation, quand cette bordure est devenue toute nacrée et solide, et ça va être le début du ramassage.
Et comment vous faites alors, ils sont tous mûrs en même temps, ou tous les soirs dans les 200 000 vous allez chercher ceux qui sont bons?
Non, ils vont pas être mûrs. Déjà, on va les mettre, on va décaler les naissins. On appelle ça les naissins, les petits escargots. Alors moi, je fais pas tous mes naissins, j'en achète des naissins. Et on va faire un petit décalage. On va faire un demi-part, puis 20 jours après notre demi-part, pour essayer de décaler un petit peu le ramassage. Et puis aussi parce qu'il y en a qui vont tomber avec de la canicule et qui peut-être ils survivront même pas. Donc il faut avoir un peu plusieurs parcs avec un décalage comme ça. Et là, après, on le voit, quand l'escargot est bordé, on le ramasse le plus vite possible pour pas qu'il se remette. Après, il va se remettre à pondre. Il va être adulte et là, il va ne penser qu'à pondre. Donc se fatiguer, remaigrir, voire mourir aussi.
Parce que si je me trompe pas, il n'y a pas de mallette de femelle hein, chez les escargots. Non. C'est hermaphrodite, c'est ça hein.
Voilà, donc là, il n'y a pas de gaspillage, on ramasse tous les escargots font des œufs, donc ça peut aller très très vite après, si on se laisse déborder, si on oublie de ramasser des escargots, on en oublie, hein. On peut très vite après avoir une densité trop forte de petits, et avoir que des petits, des tout petits.
Parce qu'ils
n'ont
plus assez à manger après, c'est ça
ou... Oui, ça fait un peu effet aquarium, s'il y a trop de nombre, après ils restent petits.
Ah oui. Pourquoi les escargots, en fait, c'est étonnant comme idée, personne n'en fait.
C'est justement parce que personne n'en fait que j'ai voulu le faire, oui, parce que alors là, la niche est toute petite, mais je me suis dit, si j'étais seul dans la niche, peut-être commercialement j'arriverai à les vendre. Et en fait, oui, commercialement, on arrive à les vendre à condition de voilà d'être tout seul. Il faudrait et parce que dans la région il n'y a pas une grosse consommation. En plus de ça, on est concurrencé bien sûr par l'importation. En France, 96% des escargots viennent des pays de l'Est. Ils sont beaucoup moins chers parce que dans l'escargot, ce qui compte, c'est la main-d'œuvre. Il y a une main-d'œuvre pour le cuisiner énorme. Et donc, du coup, on a des escargots trois fois plus chers que dans les prix les plus bas. Mais après, nous, on met les courbouillons, le beurre, tout ça, c'est des produits frais, le persil, c'est frais. On ne travaille pas avec de la poudre.
C'est pas la même qualité. Hein.
Voilà, donc c'est un créneau sur de la très haute qualité.
Vous adhérez à la charte du pays Midi-Quercy, donc on peut retrouver vos coordonnées dans le petit guide où il y a la biquette. Et également sur le site internet du pays. En plus, vous êtes géolocalisé dessus, donc c'est nouveau ça. Donc on peut, les gens peuvent vous contacter, prendre rendez-vous.
Oui, tout à fait. À Noël, mais j'aime bien que les gens viennent. Bon, après, c'est un effort et donc je comprends que la plupart ne fassent pas cet effort, mais c'est sympathique. Ouais. Moi, ça me plaît. Ouais. À part que bon, je suis agriculteur, donc il faut m'appeler un petit peu à l'avance. On sait pas, voilà, c'est pas un magasin où on peut venir comme ça sans rien dire. Je ne suis pas forcément là. Quoi. Et ma femme est au labo, donc on peut pas. Il faut appeler, réserver les produits que l'on veut acheter et appeler avant d'arriver.
Par mail aussi, peut-être ?
Par mail, oui. Ce matin, j'ai eu des réservations par mail. Ça marche pas mal. Et après, bon, on peut aussi dire les produits que je fais. Donc, on fait le petit gris, alors, en sauce, enfin, fini de préparer en sauce, mais on le vend aussi courbouillonné, on le vend aussi juste blanchi. Donc, si vous voulez, il y a toute une échelle de prix hein, en fonction du temps de préparation. Et pour les gros gris, c'est pareil. On fait du gros gris vivant jusqu'au gros gris, blanchi, courbouillonné. Ça, c'est pour les restaurants, des choses comme ça. Ou même pour des gens qui veulent finir sur les farcir eux-mêmes ou qui ont une sauce bien particulière. Et jusqu'à l'escargot, tout préparé à la bourguignonne ou des croquis d'escargot ou des tapas ou des escargots en brochette. Enfin, on a tout un tas de produits, quoi.
Donc, vous pourrez retrouver les produits du Clos Jouan-Lagarde sur donc le petit guide du pays Midi-Quercy sur internet. Vous avez un site?
Non, j'ai pas de site, mais il y a un Facebook, les escargots du Clos Jouan-Lagarde. Après, il y a surtout, je vous dis, les petits magasins, le Carré Tout à Montauban, au Soleil du Midi à Caussade. Je ne me rappelle plus de tous mes petits magasins, mais bon. Il y en a même à Parisot, dans une petite épicerie sympathique. Et pour l'instant, voilà, c'est tout. Mais on me retrouve après tout l'été sur les marchés gourmands du pays, quoi.
Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur Lagarde, de m'avoir accueilli. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, du coup.
Merci. Oh, merci. Au revoir.
Bon escargot, alors. Au revoir.
Un reportage de Marie Brandy. Elle est chargée de mission alimentation et circuit court au sein du pays Midi-Quercy. Elle était donc à Genébrière, au Clos Jouan-Lagarde avec François Lagarde. La suite de ce mag. Après la musique où les offices de tourisme prennent le micro, nous irons en Quercy Caussadé.
Mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Ce mec du pays Midi-Quercy où les offices de tourisme prennent le micro en Quercy-Caussadé, aujourd'hui avec Emmanuel Aymar. Bonjour.
Bonjour Lisa.
Vous êtes chargée de développement touristique pour le réseau des offices donc du Quercy-Caussadé. Et justement, on est en hiver, il ne se passe pas grand-chose. On se demandait, qu'est-ce qu'ils font les offices de tourisme pendant l'hiver?
Oui, souvent on se dit, mais que peut bien faire le personnel d'un office de tourisme pendant la période hivernale? En effet, lorsque l'hiver arrive, toute l'équipe de l'office de tourisme entend souvent ces questions. Et souvent, vous êtes peut-être déjà posé vous-même, mais vous faites quoi l'hiver? C'est calme en ce moment. Vous devez vous ennuyer. Je viens vous tenir compagnie. Les préjugés sont nombreux. Aujourd'hui, l'équipe de l'office de tourisme rétablit la vérité et vous dévoile ce qu'elle fait réellement pendant l'hiver. Tout d'abord, bien recevoir les visiteurs. En effet, nous continuons à conseiller les habitants, les touristes, même s'ils sont moins nombreux, les associations locales, les professionnels. Ce sont pas moins de 3000 personnes que nous renseignons durant la période hivernale. Le dialogue avec les acteurs locaux est important également pour organiser avec eux les activités et manifestations, les visites guidées, les expositions à venir. Par exemple, 18 expositions temporaires sont programmées entre les bureaux de Caussade et de Montpezat de Quercy. Nous commençons aussi à travailler sur l'organisation de la fête de la nature qui aura lieu en mai. Nous mettons à jour la base de données, c'est-à-dire toutes les fiches des offres locales sur le système d'information touristique départemental et travaillons sur les différents supports de promotion. Par exemple, nous avons déjà transmis à Tarn-et-Garonne Tourisme les informations et nouveautés pour les guides 2022 et à Tourisme Midi-Quercy Gorge de l'Aveyron les fêtes et manifestations à venir pour le MAC d'hiver. Il faudra faire de même pour le MAC de printemps. Nous mettons à jour nos guides, nos flyers, notre site internet. Nous trions notre photothèque. Nous programmons aussi les publications Facebook, Instagram, en réalisant tout un planning éditorial. Nous mettons à jour le dossier de presse de la destination pour faciliter les accueils presse et construisons les Instamites, les accueils de blogueurs, d'influenceurs. Nous prospectons les groupes, les clubs, les scolaires, afin de leur proposer notre offre de visite guidée et planifier avec eux leur venue sur notre territoire. Nous travaillons aussi à l'organisation de réunions d'information à destination des professionnels en espérant qu'elles pourront avoir lieu cette année. Nous nous promenons un petit peu. En effet, nous visitons les hébergements afin de pouvoir en faire la promotion, soit seul, soit avec Tarn-et-Garonne Tourisme ou également avec les labels et développons les thématiques et marques. Par exemple, la nouvelle marque Accueil Famille, Insolite, la marque Vignoble et Découverte, Tourisme Handicap et de plus en plus, nous allons travailler également sur le développement durable. Nous en profitons aussi pour nous réunir en équipe et aussi avec les partenaires. Un peu moins marrant, nous finalisons les tableaux de bord de l'activité, les statistiques, afin de nous permettre d'adapter notre stratégie d'accueil. Nous clôturons l'exercice comptable 2021 et travaillons sur le budget 2022 en lien avec la communauté de communes. Nous finalisons le rapport d'activité 2021 et travaillons au plan d'action 2022. Nous continuons également à faire de la veille réglementaire et à nous former. Enfin, nous suivons les dossiers en cours. Le projet de réaménagement du bureau d'information touristique de Montpezat de Quercy, le renouvellement du label Vignoble et Découverte avec Tarn-et-Garonne Tourisme et le syndicat des vins des coteaux du Quercy, la mise en place de boucles cyclables sur le Quercy-Caussadet en lien avec le pays Midi-Quercy, la participation au pays d'art et d'histoire, le suivi des sentiers de randonnée, la création de nouveaux jeux de pistes baludiques, etc. Cette liste n'est pas exhaustive, mais force est de constater qu'il y a beaucoup à faire.
Ce que vous nous dites, Emmanuel, c'est que ce n'est pas la peine de venir vous voir à l'office de tourisme du Quercy-Caussadé ou du moins à Caussade, venir vous voir donc pour prendre un café parce qu'on suppose que vous vous ennuyez.
Tout à fait. Alors bien sûr, on peut venir nous voir, il n'y a pas de souci. Après, bon, prendre un café, à l'heure actuelle, on n'aura peut-être pas trop l'autorisation de vous proposer un café, mais c'est avec plaisir qu'on pourra vous recevoir.
Là, pour les vacances d'hiver, vous êtes ouvert, vous êtes quand même amené à, j'imagine, renseigner les divers visiteurs qui viennent admirer le Quercy-Caussadé by hiver.
Alors, c'est vrai, enfin, exceptionnellement, on ferme sur la fin d'année, donc on sera ouvert à Caussade le lundi et mardi, mais après on sera fermé pour cette fin d'année. La plupart des personnes, je dirais, profitent de ces fêtes pour se retrouver en famille. Et malheureusement, comme il y a beaucoup de manifestations annulées, on n'aura pas grand-chose à proposer à notre clientèle.
Vous vous avez tout à loisir de faire une belle, grosse, vaste programmation du coup pour les prochains beaux jours qui s'annonceront sans masque ni parapluie à espérer pour le Quercy Caussadé avec, vous le disiez, des partenariats avec les associations, les acteurs locaux, l'organisation d'expositions et de mise en valeur du patrimoine local.
Alors pour pouvoir suivre aussi toute l'actualité, donc soit sur nos pages Facebook Quercy Caussadé, Tourisme Quercy Caussadé, soit également sur le site internet Tourisme Quercy Caussadé, où là vous aurez toute l'information et vous pouvez nous suivre. Donc voilà, soit les réseaux sociaux, soit le site internet.
Elle est chargée de développement touristique, Emmanuelle Aymar, pour le réseau d'office de tourisme du Quercy Caussadé. Ça chôme pas par là-bas. Merci beaucoup, Emmanuelle.
Merci. Et pour terminer, je voulais, au nom de toute l'équipe de l'Office de tourisme du Quercy Caussadé, Emmanuel Trinquéry, Claire Wolf, Romy Barène et moi-même, vous souhaitez de très belles fêtes de fin d'année, une année 2022 riche en découvertes, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en Quercy Caussadé.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.